cacheur et un sale. J'ai réduit totalement cette
histoire. Moi, c'est une diplomatie au cas d'engage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la crise de maîtrise des gens, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de participer à ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. Le projet de loi sur la promotion de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo est encore en examen au Sénat. Le ministre des Finances, auteur de ce texte, a indiqué que cette loi permettra l'émergence de la classe moyenne et permettra aussi à la population de participer à l'essor économique du pays. Quel regard portez-vous sur cette initiative? Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net pour participer en direct à cette édition, composée aussi le 081-890-6315. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page sur Facebook. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Mimi Kindou est à la technique. Berry Franklin, Luchaka et Julie et Feza Bongonda sont à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Je l'ai dit, c'est vrai, la loi sur la promotion de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo est encore en examen au Sénat. Il faut noter que le Sénat a déclaré recevable ce projet portant promotion de l'entrepreneuriat en RDC et l'a transmis à la Commission économico-financière et de la bonne gouvernance pour un examen approfondi. Mais il faut noter que ce projet de loi vise l'émergence d'une classe moyenne nationale selon le ministre des Finances. Mais en cas de désengagement par rapport aux innovations, ces engagements de l'État, des entreprises du portefeuille, les Congolais, mieux les nationaux, donc peuvent acquérir 3% de ces titres. Voilà. Nous avons en ligne Michel Somoué, qui est analyste économique, qui est avec nous. Michel, bonjour. Voilà, Michel Somoué, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, on va prendre plutôt un auditeur qui nous a rejoint en premier. Omar, vous êtes à Kinshasa?
Oui, je suis là, JR, et je vous...
Voilà, quel est votre point de vue, Omar?
Merci beaucoup, JR, de l'accord du verbe à vous m'accorder. Je vous en remercie sincèrement. Par rapport au sujet, je tiens d'abord à féliciter cette initiative législative qui est, à mon avis, louable et mérite d'être soutenue. Je crois que certains diraient d'emblée que c'est une loi de trop. Mais moi, j'estime, et je crois que c'est l'avis des nombreux, que cette loi ne vient que satisfaire les désirs des constituants qui, à l'article 35, dit « L'État garantit les droits à l'initiative privée, tant aux nationaux qu'aux étrangers. » Et la même condition précise qu'il faut qu'une loi soit mise en œuvre pour mettre en œuvre les modalités de cet exercice. Donc, sur le plan constitutionnel, je pense que cette loi vous opérera d'or. Encore, un autre fondement qui soutient cette loi, c'est que nul ne peut ignorer qu'en ces jours, il n'y a pas de développement sans initiative privée. Et beaucoup de pays émergents l'ont démontré. On ne peut pas envisager un développement sans production interne. Et une loi de ce sens vient vraiment à point nommé pour, n'est-ce pas, combler le vide qui nous a toujours caractérisé, qui fait qu'aujourd'hui l'entrepreneur à RDC soit une coquille vide. Mais il faut que ceux qui vont légiférer, ceux qui vont adopter, ou encore ceux qui vont discuter cette loi, n'oublient pas les causes qui font que l'entrepreneuriat à RDC ne puisse pas marcher. Notamment, comme nous l'avons dit hier, c'est le manque de moyens. Beaucoup de Congolais sont épris de l'esprit de l'entrepreneuriat, beaucoup ont des initiatives louables, mais par rapport au manque de moyens, ils n'arrivent pas à réaliser leur vision. Il y a aussi autre chose hier qui est important, c'est l'incompétence. L'entrepreneuriat, c'est un art, c'est un talent, oui. Mais aujourd'hui, il y a des techniques pour entreprendre. Je crois que vous avez suivi avec nous la fois passée les programmes YALI du gouvernement américain. Chaque année, le gouvernement américain fait appel aux Africains pour les former en entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un art, c'est une technique qui s'apprend. Je crois que les économistes sont mieux placés. Il faut, au-delà des moyens qu'on a, apprendre aux gens comment entreprendre. Et enfin, il y a aussi une certaine inaction de la part de ceux qui doivent entreprendre. Il y a des gens qui sont là, pétris des talents, mais qui n'arrivent pas à libérer leur potentiel. Donc, s'il faut rassembler tout ce que j'ai dit, je pense que la loi est fondée et mérite d'être soutenue. Mais ceux qui doivent légiférer tiendront, n'est-ce pas, compte des causes qui ont fait que l'entrepreneuriat ne puisse pas marcher. Mais je pense que la loi seule, JR, ne suffit pas pour promouvoir l'entrepreneur RDC. Il faudra aussi, après la mise en œuvre de la loi, que le ministère des Finances et autres ministères similaires tiennent compte des formations. Par exemple, faire comme le programme Yali l'a toujours...
Voilà, dommage, on a des petits soucis avec les lignes téléphoniques. Ce matin, espérons que ça va s'arranger. Michel Sommoy est en ligne. Voilà, donc il est temps de vous rappeler que le Sénat a déclaré recevable le projet de loi portant promotion de l'entrepreneuriat en RDC et l'a transmis à la commission économico-financière de la bonne gouvernance pour un examen approfondi. Mais il faut noter aussi que ces projets de loi visent l'émergence d'une classe moyenne nationale, selon le ministre des Finances, et qu'en cas de désengagement de l'État des entreprises du portefeuille, les Congolais ou encore les nationaux peuvent acquérir 33% de titres de ces entreprises du portefeuille. Voilà donc quelques innovations qui ont été apportées par rapport à cette loi. Et aussi, dans le cadre de ces textes de loi, il sera créé un fonds d'accompagnement de l'entrepreneur national. Est-ce que tout cela, ça donnera des résultats? Vous avez la parole, Maître Ngandou, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Maître Ngandou.
Bon, j'ai fait un constat, d'abord dans les chefs des Congolais. Vous savez que les Congolais aiment être des travailleurs, hein? Donc entreprendre, ce n'est pas vraiment de notre domaine. Et puis, il y a quelques domaines que les Congolais ont tendance à vouloir initier l'activité. C'est dans ce domaine commercial. Hein. Vous voyez, dans ce domaine commercial, ils essaient un peu de mener, mais ça ne tient toujours pas à cause des nombreux besoins qui sont, disons, satisfaits. Ils n'arrivent pas. Mais vous verrez qu'ils sont là seulement pour demander les emplois. Mais moi, je pense qu'il y a des domaines où, par exemple, dans les domaines agricoles actuellement, je vais aussi parler d'un autre domaine.
Maître Ngandou, avant d'évoluer par rapport à votre réflexion, est-ce que vous pouvez nous dire sincèrement si l'idée, au fait, de créer une classe moyenne partant de la promotion de l'entrepreneuriat en RDC, est-ce possible?
Tout à fait. Mais il faut que...
Et quels sont les préalables?
Disons, les préalables, comme je l'ai dit, c'est d'abord la formation de cette population-là. On veut qu'ils puissent devenir une population émergente, parce qu'on ne pouvait pas évoluer avec une population qui n'est pas formée. Vous savez que cette opinion-là d'entreprendre, ça nécessite au préalable que la personne soit consciente et puis soit formée. Mais nous avons une population, comme vous le savez, manipulée à tout moment, qui peut remporter à tout moment une population qui n'est pas en soi transformée. Ça, c'est le premier préalable, mais aussi les dirigeants, surtout les politiciens qui sont censés mettre les fonds à la disposition de cette population transformée, moi, ce que j'ai dit. Mais ces dirigeants sont plus voués, disons, ont tendance à recourir aux satisfactions des intérêts privés, les intérêts propres, ils confondent les biens communs. Je suis différent aussi des choses. Mais moi, je pense qu'il y a des domaines qu'on doit entreprendre, doit initier dans les domaines de la communication.
Oui, Ngandou, Maître Ngandou.
Oui.
Voilà, alors une autre préoccupation, parce que nous avons suivi tous le ministre des Finances lors de son intervention sur la tribune du Sénat. Il a évoqué, entre autres innovations, qu'en cas de désengagement de l'État des entreprises du portefeuille, les Congolais, ou si vous voulez, les nationaux, peuvent acquérir 33% des titres de ces entreprises, des portefeuilles.
Alors, là, c'était, à mon avis, dans le cadre des entreprises qui sont actuellement transformées en sociétés commerciales. C'était prévu, bien que transformées, l'État devrait se désengager petit à petit, tout en vendant les actions aux particuliers. Mais vous pensez qu'il y aura des Congolais qui peuvent accéder à acheter les actions là-bas? ne sont pas là, nous ne le voyons même pas. Si on parle des classes moyennes, quand vous dites des participations au niveau des sociétés commerciales actuellement qui ont l'unique actionnaire l'État, on va voir ça, mais tout ce que je sais, c'est d'ailleurs la motivation qui avait poussé l'État à transformer ses entreprises en société pour que les particuliers puissent acheter les actions là-bas, mais je ne sais pas encore l'État, mais si ça arrivait ainsi, c'est une bonne chose. Je pourrais enchaîner pour dire que là, vraiment, il faut qu'on initie des projets, même si tu ne payes pas. Par exemple, moi, j'ai parlé, je n'ai pas l'argent, hein, mais j'ai parlé beaucoup. J'ai parlé beaucoup pour nous offrir des fois des endroits où on peut faire un don, donner les idées et qui peut transformer. Donc, on peut, par exemple, initier des projets comme ça, consistant à communiquer, informer notre population, c'est ce qui doit être. Et puis, nous avons le sol ici, les gens peuvent rentrer au lieu de rester toute la journée comme ça sans rien faire, aller arroser les fleurs, faire l'agriculture. C'est une manière de s'épanouir. Hein. Je pense qu'il faut qu'on ait des gens qui ont cette capacité-là de pouvoir d'abord détecter le problème et puis intervenir.
Oui. Je crois que Maître Ngandou, le problème qui a toujours été évoqué, c'est le manque de moyens. Les Congolais n'ont pas assez de moyens. Aujourd'hui, pour accéder même au crédit auprès des banques, enfin, d'organiser des activités commerciales, c'est vraiment un problème. Le fait que, en fait, la loi prévoit la création d'un fonds d'accompagnement de l'entrepreneur national, alors vous pensez que cela pourrait constituer quand même une garantie pour accéder au crédit?
Bon, quand vous dites des moyens, moi je dirais que c'est d'abord une initiative qui n'est pas là. Mais quand vous dites aujourd'hui qu'on va créer un fonds, mais je sais qu'il y a quelques Congolais, Congolaises qui ont l'esprit là d'entreprendre. Et s'il y a des moyens qui sont mis à leur disposition, ils utilisent bonnement ces fonds-là dans l'intérêt d'émerger. Je pense qu'on pouvait s'attendre à quelque chose. Mais ce qui est vrai, ce sont là, ce projet-là, ont toujours existé. Hein, mais hier, j'avais dit, il me semble qu'il y a près de New York qui a même dit que des fois c'est détourné, hein. C'est quelque chose. Les projets comme ça ont déjà existé. Ont déjà existé depuis longtemps, mais l'impact, mais je pense que la responsabilité n'est pas seulement dans les chefs de ceux qui font mal et qui font cet argent, on n'est pas alloué pour donner aux destinataires, mais aussi la population qui, des fois, bénéficie aussi de pareils fonds, mais ne sait pas émerger parce que non formés ou beaucoup de problèmes pour prendre d'argent, on cherche à au lieu de décréter, par exemple, le commerce, on cherche à liquider un qu'on a envers une école, la nourriture, voilà, on ne peut pas s'émerger. Et même lorsqu'on reste comme ça sans fond, on crie qu'on n'a pas de moyens. Mais je pense que il y a des domaines ici au Congo, hein, que les gens, par exemple, l'agriculture, là, c'est les forces physiques, hein, vous contentez de.
Alors pour vous, Maître Ngandou, c'est vrai, bon, c'est y a à boire et à manger. Vous pensez que dans quel domaine cela aura un impact le plus rapide? Est-ce que au niveau de l'agriculture, au niveau de...
Oui. Actuellement, les gens qui détiennent les connaissances doivent investir dans l'homme. Donc nous devons transformer l'homme congolais. S'il y a des bailleurs de fonds, faut allouer des fonds dans ce domaine-là. Vous voyez les gens qui, d'une manière simple de communiquer, qui vise la transformation des peuples, vous les soutenez et afin que les peuples soient éduqués après cela. Donc, des pères, disons, parallèlement, il faut aussi s'occuper de l'alimentation de ces peuples, les nutriments et la santé, il faut investir là-bas, je vous ai dit. Il y a des gens, par exemple, qui veulent entreprendre dans le domaine de la santé. On les alloue des moyens. Ils seront là pour sensibiliser, soit fournir les produits, les traitements à la population. Et puis, plusieurs domaines.
Donc, pour vous, il n'y a pas de domaine prioritaire?
Bon, comme je l'ai dit, c'est d'abord la transformation de l'homme. L'homme congolais, il passe encore vers quelque chose de réfléchir dans les camps de la majorité. Je dis, on ne peut pas avancer avec une population qu'on n'est pas sûr de sa position, qui est des mains étrangers. C'est des domaines prioritaires. Et puis, l'alimentation, en soi, c'est qu'on peut se démener hein, pour manger. Vous savez quoi que je vois déjà, des fois, on vit avec...
Voilà, merci beaucoup. Donc, on comprend, pour vous.
On est là, dans le même malade.
Voilà.
Voilà. Je disais, il y a ce domaine-là, la transformation de la population, mais il y a aussi un autre domaine. La population, si je ne fais pas attention tellement à ces peuples-là, il y a aussi des dirigeants.
Voilà, merci beaucoup, Maître Ngandou, d'avoir appelé de Kinshasa, 081-890-6315, pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Capi et vous suivez parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Nous avons en ligne Michel Sommoy. Bonjour Michel Sommoy.
Bonjour Gilles.
Voilà, vous êtes analyste économique. Tout à l'heure, on a eu des petits soucis avec votre ligne téléphonique. Vous n'avez pas eu le temps de suivre peut-être des auditeurs qui ont réfléchi par rapport à cette thématique relative à la promotion de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Ce projet de loi qui est encore à l'examen au niveau de Sénat, du Sénat. Alors aujourd'hui, donc on parle de véritable révolution économique. Est-ce que vous partagez cet avis?
Non, on parle d'une véritable révolution économique, je crois que c'est un peu trop dire. Parce que ce qui est vrai, c'est que il est bon qu'il y ait des lois dans ce pays. On ne peut pas reprocher aux députés, au gouvernement d'initier des lois, surtout quand il s'agit d'améliorer les performances économiques de notre pays. Ce qui manque fondamentalement pour la promotion de l'entrepreneuriat au Congo, ce n'est pas cette loi-là qui est la cause de la léthargie du secteur économique dans notre pays, pas du tout. Mais moi, je comprends parfaitement qu'un ancien administrateur délégué de la Fédération d'entreprises du Congo, devenu ministre des Finances, puisse proposer comme première initiative de son premier pas dans le gouvernement une loi sur la promotion. Ça va de sa nature, ça va de son background, c'est normal. Mais il est important de savoir que ce qui promeut de mieux l'entrepreneuriat, c'est d'abord les conditions générales de l'environnement macroéconomique du pays. Ça, c'est très important. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, parce que l'État congolais va se désengager et qu'il faut donner 3% aux nationaux. Ce n'est pas cela qui va constituer, à mon avis, la promotion de l'entrepreneuriat. Étant donné que notre économie générale, notre potentiel économique, dispose tous les citoyens congolais à devenir de grands entrepreneurs. D'ailleurs, la preuve est là. Quand vous passez à travers toutes nos rues, presque toutes nos adresses sont porteuses des logos d'entrepreneuriat. Et ici, on vend de l'eau, là-bas, on vend de la bière, ici, on vend des pionniers, etc. Donc, tout le monde est obligé à exercer une activité génératrice de revenus. Mais tout le monde ne sait pas s'organiser pour devenir effectivement une entreprise aux conditions, disons, selon les normes classiques du CERN. Pourquoi? Parce que les conditions générales ne répondent pas, ce n'est pas la loi, c'est la promotion. Mm-hmm. Ce n'est qu'une codification de certaines exigences, de certaines conditions pour appliquer, mais l'environnement global lui-même, nous avons un potentiel de ressources naturelles énorme, gigantesque, incomparable. si on prend le monde entier, nous sommes incomparables aux autres. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là ne sont pas devenus entrepreneurs, ceux qui habitent cette terre? Tous nos villages, toutes nos rivières, tous nos ruisseaux nous prédisposent à devenir des entrepreneurs. On peut faire la pêche, on peut faire l'agriculture, on peut faire l'élevage, on peut faire l'industrie du bois, etc. Mais nous pouvons faire tout ça, le pétrolier et autres. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que les politiques générales du pays, les politiques économiques du pays, en dehors de cette loi, ne favorisent pas ça, ne stimulent pas ça. Parce que les conditions monétaires et les conditions budgétaires de notre pays ne sont pas réunies pour que ça se passe. On a bien beau dire donner aux nationaux 3% des parts sociales des entreprises auxquelles l'État se retire. Mais si aucun national ne peut accéder à un crédit bancaire aux conditions idéales, aux conditions normales, mais à quoi ça aura servi? Il ne viendra pas. Si, j'avais déjà dit à l'époque du copyright qu'à mon humble avis, le gouvernement s'est empêché d'entrer dans la civilisation par la porte de sortie. Les conditions n'étaient pas encore réunies pour que l'État puisse se désengager. Les conditions n'étaient pas encore réunies pour que nous puissions privatiser les entreprises de l'État. On a encore besoin, comme dit Prigogine, que lorsque les conditions de connaissance sont encore faibles, il faut que la puissance s'impose. Donc on a besoin de l'État, là où les conditions du privé ne sont pas encore réunies. Je ne sais pas si je peux continuer à parler parce que je suis au téléphone.
Oui, je crois que, Michel, parce que vous avez parlé de l'accès au crédit. Aujourd'hui, dans les cadres de ce texte de loi, il sera créé quand même un fonds d'accompagnement de l'entrepreneur national FACEN, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Vous ne pensez pas que cela constitue quand même une garantie pour avoir accès au crédit au niveau des banques?
Non, je crois que j'avais suivi le débat au niveau du Sénat quand on avait parlé de ce fonds-là. Il y a bien des sénateurs qui avaient formulé des réserves et qui avaient même dit mais un fonds de plus, sinon un fonds de trop. Ce ne sont pas des fonds qui manquent. Bien que le ministre s'était défendu en disant que non, c'était un fonds spécial par rapport au projet actuel. Mais on avait parlé du RPI, on a parlé des autres fonds. Nous connaissons ce que ça veut dire, le fonds de promotion culturelle. On sait ce que ça veut dire, ce que ça fait, ça n'a pas. Nous avons le fonds social. Mais ce sont des trucs qui sont finalement des coquilles vides et qui eux-mêmes ont des problèmes d'argent. Prennent le cas du fonds social, ils cherchent l'argent de gauche à droite, ils n'en trouvent pas. Mais le FPI se débrouille avec des créances qui ne sont pas recouvrées à tout moment, c'est du bruit. Il y a plus de bruit que de réalité. Et comme on dit en français, le bruit ne fait pas du bien, le bien ne fait pas du bruit. Moi, je voudrais dire que les conditions qu'il faut au départ, ce sont des conditions de gestion de la conjoncture. Les instruments de gestion de la conjoncture sont lesquels? C'est la politique monétaire viable, qui donne à l'économie nationale une monnaie dans laquelle le citoyen congolais peut investir et non pas obliger le citoyen congolais d'investir dans des monnaies étrangères dont tu ne connais pas les conditions d'émission et de destruction que tu ne maîtrises pas la politique monétaire. Il y a des conditions budgétaires qui permettent à l'État de conférer notamment au secteur privé, aux entrepreneurs locaux, l'accès au marché public. Là, ça peut compenser. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat congolais souffre de quoi? Je parle bien de l'entrepreneuriat congolais, non pas de l'entrepreneuriat au Congo. Je parle d'entreprises congolaises. On souffre de trois choses. Nous n'avons pas accès au financement des banques. Parce que les banques que nous avons ne sont pas des banques au vrai sens du terme, c'est-à-dire des instruments de canalisation des ressources, des agents qui ont un excédent de trésorerie vers ceux qui en ont un investissement productif. Les banques que nous avons aujourd'hui sont des opportunistes, des spéculateurs qui font des petites opérations de change de gauche à droite et qui passent leur temps à adopter une sorte de clientélisme. Mais vous savez, lorsque déjà vous regardez les tableaux statistiques et que vous vous rendez compte que le volume global de crédit octroyé par les banques à l'économie nationale ne représente en réalité que moins de 10% des dépôts bancaires effectués, vous vous posez un problème. Je vous ai déjà dit hier sur le plateau de Radio Capti que dans tous les pays sérieux, le niveau de crédit, le volume de crédit dépasse le PIB de l'année. Vous avez des pays sérieux où le crédit intérieur atteint jusqu'à 100, 115%, 120% du PIB du pays. qui a été réalisé. Mais vous avez chez nous un cas comme le Congo où le crédit octroyé ne peut jamais atteindre 10% du PIB. Donc c'est pour dire que les banques sont énormément léthargiques et ça
ne
l'accepte pas aux banques.
Oui, Michel, avant que nous repartions à notre conseil de standard pour accueillir à nouveau les auditeurs, mais notez que cette initiative tombe à point nommé selon le gouvernement congolais. C'est pour relever en tout cas le défi lié à l'absence d'opérateurs économiques nationaux dans l'ensemble des secteurs vitaux de l'économie congolaise, en particulier les mines, les autres industries extractives, manufacturières, les télécommunications et plus grave, l'absence de la classe moyenne au sein de la population. Donc, à en croire vos propos, c'est comme si c'est impossible avec l'approche utilisée aujourd'hui par le gouvernement congolais au travers de cette proposition de loi.
Hier, l'intention est très bonne. C'est le vœu de tout le monde que le Congolais puisse participer à l'activité économique dans les secteurs clés de notre pays, notamment les mines, notamment le pétrole, etc., qui attire trop de convoitises étrangères et qui nous provoquent la guerre. C'est l'intérêt de tout le monde que cela se passe ainsi. Mais cependant, ce qu'il dit, ce n'est pas par le fait de cette loi que cela va se faire. Cela se fera lorsque l'État congolais aura adopté des politiques monétaires conçues en fonction des réalités de notre pays. Lorsque l'État adoptera des politiques budgétaires conçues en fonction, en rapport avec la situation de notre pays et l'état de besoin de notre marché intérieur. Ça, c'est très important. Lorsque nous comprendrons que le secteur minier doit contribuer à l'épanouissement du marché intérieur en priorité. Quand on comprendra que le pétrole et autres doivent servir d'abord à la consommation intérieure, à l'épanouissement du marché intérieur, à ce moment-là, nous pourrons adopter des politiques réalistes, des politiques véritables. Les lois comme celle portant promotion de l'entrepreneuriat au Congo viendraient en appui, un système d'encadrement de l'investissement national. Mais aujourd'hui, ces conditions-là de politique monétaire, de politique budgétaire n'existent pas. La monnaie au Congo est un leurre, une fiction. Le budget au Congo est une fantaisie, un folklore. Mais comment voulez-vous avoir un entrepreneuriat qui soit sérieux? Et regardez, c'est pour ça que nous avons plus de 95% de l'économie occupée par le secteur informel.
Formel.
Il dit entrepreneur congolais, dit essentiellement un entrepreneur informel. Parce que les lois formelles, le cadre qui devait être mis en place par l'État est toujours absent.
Voilà, merci beaucoup Michel, nous vous gardons encore en ligne 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioCapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioCapi.net, la radio en différé à votre service.
Oui, Omar, vous nous avez à nouveau rejoint. Tout à l'heure, lorsque vous parlez, il y a eu l'interruption de notre communication avec vous. Alors, vous parlez tout à l'heure, avant qu'on puisse se séparer, le manque des moyens, ce qui pourrait constituer quand même un obstacle pour arriver à relever ces défis. Omar, vous êtes en ligne.
Oui, je suis là, JR, et je vous remercie. Excusez-moi pour cette erreur indépendante de ma bonne volonté. Je disais, JR. Et avant de réagir à ce que vous avez dit, je voudrais réagir à ce que Michel Somo a dit. Un monsieur que j'apprécie beaucoup, mais aujourd'hui, je ne partage pas ses avis. J'ai lu un ouvrage économique de M. Adam Smith. Il a même été réélu par un professeur américain économiste, Akerlof. Il dit que le premier pas de la croissance économique, c'est la réforme. Parlant des conditions. Quelles conditions, M. Michel, faut-il qu'il soit? Conditions juridiques. Il faut qu'il y ait une loi. On ne peut pas commencer une réforme économique sans mettre en place une loi. Il n'oublie pas que nous sommes dans un état de droit. Deuxième condition économique, il existe un fonds qu'on appelle FPI, qu'on appelle le fonds de promotion culturelle. On veut créer un autre fonds. Ce qui manque, ce n'est pas des conditions économiques. Ce qui manque, c'est la volonté politique de ce qui anime ces conditions de fonds. Il y a aussi la NAPI. Mais moi, je pense que les plus grands problèmes, j'y ai, c'est au niveau éducationnel, au niveau humain. Parce que ceux qui entreprennent, ce sont des hommes. Parlant toujours des conditions économiques, lorsque Mark Zuckerberg a créé Facebook, les États-Unis étaient en crise. Lorsque Steve Jobs a créé iPad, les États-Unis étaient en crise. Il ne suffit pas seulement d'assainir les conditions économiques. Il faut aussi que l'entrepreneur congolais, l'homme, ait la volonté d'entreprendre. On ne peut pas soutenir une œuvre qui n'existe pas. Parlant des conditions, je voulais qu'ils disent que ça existe, mais il faudra les revitaliser, il faudra les réformer. Parce que s'il faut toujours parler d'assainissement des conditions, quand est-ce qu'on va faire le premier pas? Voilà pourquoi ce que vous l'avez dit, et je suis par là.
Oui, Omar, avant que vous citiez, notez que le régime particulier en faveur de l'entrepreneur dans cette loi, en conformité avec les règles de l'OADA, Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires et de l'OMS, alors l'écumule d'une activité lucrative à concilier avec l'activité rémunératrice d'argent public ou des mandataires de l'État, sans ouvrir le flanc à quelconque conflit d'intérêts, d'aucuns craignent qu'aujourd'hui qu'on n'arrive pas à concilier l'OADA et l'OMS par rapport à cette loi. Est-ce que vous partagez cet avis?
Non, je ne pense pas. Ceux qui légifèrent au Parlement sont des légalistes. Il y a un principe en droit qui dit que la loi au niveau interne doit s'adapter aux normes internationales. J'ai lu le projet de loi, je n'ai vu aucune disposition qui viole l'OADA. D'ailleurs, cette loi n'a fait que s'adapter à l'OADA. Mmh. Donc, il y a là des conditions juridiques qui sont respectées. Il y a aussi des conditions économiques. Monsieur Michel, je dois vous rappeler qu'il n'y a pas de A. Les commissions ne commencent pas à réformer. Ce qu'il doit proposer, ce sont les mécanismes pour renforcer ce qui existe. Et je voudrais citer pour dire, le plus grand problème JR, c'est la formation de ceux qui doivent entreprendre. On peut bien assainir, comme l'a dit Monsieur Michel, on peut bien accorder des moyens. Mais ceux qui doivent entreprendre ne sont pas outillés des techniques pour entreprendre. Je finirai toujours par dire. Et je finis par dire, le ministère des Finances, le ministère des Industries et les autres ministères concernés doivent être regardants sur ceux qui doivent accorder des fonds. Hier, lorsque je disais, vous m'avez interrompu, je n'ai pas dit que le FPI ou le FPC ne font rien. Mais j'ai dit que ceux qui sont soutenus souvent sont des gros lots. Je n'ai jamais vu, moi, un paysan, un Congolais, moi, être soutenu. Mais là, et ici, le problème de la volonté politique de ceux qui doivent octroyer les fonds, ils doivent avoir des critères sérieux et non des critères clientélistes. Mmh. Voilà à mon avis, j'ai fait ce qui doit être fait pour promouvoir l'entrepreneuriat. Mais l'homme congolais lui-même est aussi à la base. Parce que lorsque Carlos Slim est devenu l'homme le plus riche de la Terre, il n'a pas attendu que l'État le soutienne. L'État vient soutenir une œuvre qui a déjà été créée. Voilà ce que je voulais dire hier et je vous en remercie.
Merci beaucoup, Omar. Michel, vous êtes à Matadi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Quel est votre point de vue, après avoir écouté Omar, Sikke Ngandou et aussi notre invité?
Oui, en écoutant l'invité et monsieur Omar, je viens ajouter à ce qu'ils ont dit, que en plus de ça, il y a encore ce que nous appelons la vision. Vous savez, toutes ces lois que nous sommes en train d'élaborer, en train de voter, si nous n'avons pas la vision, nous n'allons pas les mettre en pratique. Et moi, je me demande toujours dans quel état se trouve la salle où on dépose nos lois. Pourquoi il y a plein de lois. Mais ce qui est important, c'est le ministre qui était avant, celui qui est là maintenant, je crois qu'il avait laissé sur des lois. Qu'avons-nous fait de ces lois-là? Donc, inutile de créer des lois pour ne rien faire. Si nous prenons, par exemple, la vision qu'avait Mouzé, vous savez, Mouzé a fait des choses sans que nous ayons des lois. Et aujourd'hui, je me dis, Obama est devant les institutions, devant son Sénat, il est en train de défendre des lois pour les Américains qui devaient avoir des choses appropriées, des choses sanitaires. Donc, il y a un problème d'abord de vision. Vous savez, il y a des choses que nous sommes en train de faire maintenant, on aurait dû les faire longtemps. Et aujourd'hui, on croit être en retard. Et moi, Omar hier, il a dit quelque chose de très important lorsqu'il a donné l'exemple sur Mao Tse-tung. Vous savez, Mao Tse-tung est arrivé avec une vision. Il n'a pas attendu les lois. Il arrive, il commence comment? Il dit non. Je constate que les institutions sont en train d'emmagasiner beaucoup. La présidence, les institutions, prenons par exemple le Sénat, l'Assemblée nationale, beaucoup de fonds. Et ces fonds-là, qui englobent ces institutions, ça n'arrive pas maintenant à voir les autres, donc les peuples. Donc, commençons d'abord à avoir une vision. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça maintenant qui crée des problèmes. Ce qui veut dire, nous avons des institutions qui prennent tout. Et nous ne pouvons pas maintenant prendre au sérieux les autres projets. Et c'est là où nous devons commencer. Je ne sais pas si ma proposition va blesser, mais je vais dire, pour que nous puissions réglementer toutes ces lois et prendre toutes ces lois en exécution, la première des choses, il faut d'abord une conscience politique. La deuxième des choses, notre État ici de Congo a besoin d'un président intelligent. Je ne sais pas si je vais vous blesser. Je vais vraiment me comprendre. Parce qu'il y a des choses qui devront nous dire. Le président ne doit pas être distrait. Il sait cela veut dire quoi? Et avant de faire quelque chose, je dois attendre que ça se passe. Moi-même, je dois avoir la vision. Qu'est-ce que je fais de ma nation? Parce qu'il y a des choses que lui-même.
Alors, Michel, alors vous, Michel, vous qui avez une vision, quels sont les préalables pour que le gouvernement congolais puisse réussir quand même les défis de l'absence des opérateurs économiques dans plusieurs secteurs vitaux de la vie de la RDC? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
La première des choses, c'est ce que je vous ai dit. Nous avons des institutions. Je vous donne un exemple. Vous savez, il y a des nations où il n'y a même pas les Sénats, mais les pays évoluent. Donc, ce qui veut dire, nous avons des institutions qui nous prennent beaucoup d'argent. C'est au détriment de la population. Il faut commencer par là. Ils doivent, nous ne sommes pas, ils ne doivent pas être là.
Donc, pour vous, on a suffisamment de lois.
Oui.
Pour vous, on a suffisamment de lois. On peut les garder. Les gens sont censés surveiller les lois.
Ce n'est pas ce que je dis. Il nous faut un président intelligent.
Voilà, donc nous avons des lois. Voilà, merci beaucoup, Michel, d'avoir appelé de Matadi. Docteur Richard, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, J.R. Bonjour à M. Somoué. Et puis, félicitations à tout le monde qui a parlé.
Vous avez la parole, oui. Votre point de vue, Docteur Richard.
Oui, je commence par dire, nous devons faire la différence entre l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une dynamique pour former les entrepreneurs. L'entrepreneuriat, c'est un forum d'entrepreneurs. Il faut faire cette différence. Alors, maintenant, pour entreprendre en RDC, il ne faut pas nécessairement des lois. Il faut d'abord partir de la dynamique collective. Comme M. Somo a dit, le Congolais a le sens de l'entreprise. Qui vend de l'eau à gauche, qui vend les camondés à gauche, les gratanas, etc. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut aussi affiner ses domaines à exploiter. Le Congolais doit savoir qu'est-ce que sa richesse peut être pour les autres, pour sa communauté, etc. C'est ainsi que, quand il ne connaît pas ça, nous avons sous les mangues des mangues qui pourrissent. Et pourtant, si on savait que les mangues, on pouvait les tuer, ça c'est le domaine de la connaissance, qui implique les formations dans le formel ou dans l'informel. Ok, dans le formel, ce sont des écoles qui existent. Dans le formel, ce sont des centres de santé, centres de formation. Donc je disais, si on avait la connaissance sur nos richesses, par rapport aux besoins de l'extérieur ou de l'intérieur, les mangues ne pouvaient pas pourrir sur les mangues. On pouvait les sécher pour les consommer au moment où il n'y a pas de mangues. C'est par exemple, si on connaissait la richesse de nos noix de palme, noix palmiers, etc., l'extérieur ne pouvait pas, comme hier, il y a une dame qui a dit à partir des États-Unis, qu'on ne voit pas les jus de palme du Congo. Ok? Et quand vous dites aux Congolais, l'indica, on peut le consommer, le Congolais se moque de vous. Et pourtant, quand vous regardez dans beaucoup d'alimentation, vous avez par exemple chez Mulis, chez les Salut, vous avez l'indica de Mboumama Boto. Et pourtant, le Mboumama Boto, il s'est tout coupé. Quand vous avez la connaissance sur vos richesses, vous n'allez pas importer par exemple les porcelaines. Vous allez utiliser l'arcise de Kimpété, une arcise blanche, pour fabriquer des porcelaines. Donc, ça implique la formation. Ça, avant les lois, ça implique la formation. Ça implique la dynamique collective en matière de business, etc. Si on n'a pas ça, c'est malheureux. On peut créer des lois, mettre de l'argent là-bas, ça sera comme les acquéreurs que Mobutu avait fabriqués. Ils étaient des entrepreneurs. Où sont partis ces entreprises? Ça a disparu. Merci.
Merci beaucoup, docteur Richard. On va revenir à vous, Michel Somoué. Michel Somoué, vous êtes avec nous? Voilà, réaction par rapport à tout ce que les auditeurs viennent de dire. Il y a Omar qui n'a pas totalement partagé votre point de vue de tout à l'heure en évoquant la théorie d'Adam Smith, l'économiste qui est connu également, où il a dit premièrement que le premier pas de la croissance économique, c'est la réforme. C'est vrai, il soutient qu'il s'agit là vraiment de révolution économique par rapport à cette loi. Comment vous réagissez?
Non, d'abord, je ne vois pas à quel niveau je suis en contradiction avec M. Omar. j'apprécie parfaitement ce qu'il a dit. Mais je n'ai jamais dit le contraire, qu'on ne peut pas faire de réformes économiques. M. Omar ne m'a pas bien suivi. J'ai dit tout au début de mon intervention qu'il est bon qu'il y ait des lois qui réforment l'économie. J'ai dit clairement. Mais j'ai aussi dit que ce n'est pas cette loi-ci qui va entraîner forcément l'émergence de la classe moyenne. Ce n'est pas parce qu'il y a une telle loi qu'il y aura une émergence. Mais je suis mon homonyme Michel qui a parlé depuis matin, il faut dire, mais il vous dit, cherche même où se trouve la salle des lois qui existe. Mais Omar devrait savoir qu'il y a la loi sur le petit commerce qui protège les Congolais pour permettre justement l'émergence de la classe moyenne. Cette loi, qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi cette classe moyenne n'a-t-elle pas existé? C'est là que je dis les conditions générales du cadre macroéconomique, le cadre de base, l'infrastructure fondamentale de l'activité économique, elle n'est pas gérée. C'est ça qui est le problème. Et pour répondre, pour dire pour être plus précis, je lui dis que l'économie d'un pays fonctionne avec deux béquilles, marche avec deux béquilles. D'un côté, il y a la politique monétaire ou la monnaie, d'autre côté, il y a la politique budgétaire ou le budget. Mais je constate que les deux béquilles, malheureusement, sont chancelantes dans le cadre du c'est ça qui gère la conjoncture. À part, c'est ça les conditions générales auxquelles j'ai fait allusion. Il n'y a pas un pays au monde qui puisse prétendre à une quelconque réforme, à une quelconque émergence, si au départ, et le pays ne dispose pas d'une politique monétaire, d'une politique budgétaire viable qui fonde le cadre macroéconomique. C'est ça que je dis au départ. Mais Omar parle de la formation. D'ailleurs, Dr. Richard vient d'en parler aussi. Mais j'ai dit dans mon intervention que j'ai cité Prigogine qui disait « La puissance va toujours en raison inverse de la connaissance. » Par rapport à ça, je disais que le désintéressement de l'État, le désengagement de l'État, c'était fait dans la précipitation. Parce que les conditions de connaissance, c'est-à-dire la formation à laquelle fait allusion Omar, ne sont pas encore totalement réunies dans notre pays. Et ce qui fait que l'entrepreneuriat aussi en pâtit. Hier, je vous ai dit dans cette émission que moi, j'ai considéré, pour ma petite expérience à la fin de la tête, qu'il y a trois conditions qui condamnent l'économie congolaise à fonctionner une sorte de léthargie. Il y a l'impossibilité d'accès au financement, il y a l'impossibilité d'accès au marché public, et il y a le problème de la capacité, de la formation, du renforcement des capacités. Ce sont les trois conditions qui sont absentes. Par rapport à la dernière condition, celle de la capacité, j'ai dit qu'il faut que l'État soit présent dans l'activité économique en attendant que les Congolais puissent acquérir le maximum de formations nécessaires pour leur épanouissement. Donc, Richard a bien fait de donner l'exemple des mangues qui pourrissent. Mais il faut connaître comment les transformer, comment fabriquer du jus à base de mangue, etc. Mais tant que ces connaissances ne sont pas encore réunies, l'État a les moyens, lui, de rassembler plus facilement ces connaissances. C'est l'élimination de ce que j'appellerais mutatis mutandis, la symétrie de l'information. L'État est capable, lui, de disposer du maximum d'informations pour pouvoir transformer et compenser ce vide qui encore existe du côté du secteur privé. En s'agissant de l'accès au marché qui manque, c'est là que je parle de la politique budgétaire qui est insuffisante. Parce que la politique budgétaire sert à régler l'équilibre sur le marché des biens et des services. C'est important de le savoir. Mais pour ce qui est de l'accès au crédit, là je parle de la politique monétaire. Ce sont ces trois conditions-là qui constituent le fondement, le soubassement du cadre à partir duquel on peut connaître l'émergence des classes moyennes, on peut connaître même l'épanouissement de l'entrepreneuriat, comme a dit d'ailleurs Dr. Richard avec une bonne précision, entre l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat, ce qui est très important. Mais c'est ça que je dis. Cela dit, j'apprécie parfaitement les interventions des uns des autres, de Omar, son intervention est tout à fait viable. Je lui dirais même que Adam Smith n'est pas le bon exemple qu'il devrait prendre, parce que il faut connaître, comme j'ai dit tout à l'heure, en parlant de Yav, lui-même le ministre des Finances, c'est son passé qui le suit. Adam Smith, c'est un bon économiste, il est le père fondateur de la science et de la science, c'est bien, je le reconnais, mais n'oubliez pas que c'est le père du libéralisme et qui a fini comme commissaire en douane. Donc c'était une machine en contradiction permanente. Mais qu'ils disent qu'il y ait des conditions juridiques, et c'est bon. Notamment cette loi, c'est une condition juridique. Ce sont des conditions d'encadrement de l'activité économique.
Mais il y a une autre préoccupation.
N'ayez pas, c'est ça le problème.
Oui, il y a une autre préoccupation, Michel Sommet, c'est le régime particulier en faveur de l'entrepreneur national qui doit être en conformité donc avec les règles de l'OADA et de l'OMC.
Oui, JR, vous savez, je crois que tout ça, encore une fois, c'est l'habillement de ce qui n'existe pas encore. Il faut, n'allez pas courir de déshabiller pour un bébé qui n'est pas encore, parce qu'on ne tient pas sa taille. Je crois que le problème est à ce niveau-là. On a parlé de l'OADA dans ce pays. J'apprécie. Et j'ai toujours dit, y compris sur la radio au Capi, j'ai dit que je ne voyais pas, moi personnellement, Michel Somoué, c'est que l'OADA allait apporter de nouveau à l'économie congolaise. J'ai dit, et je m'attends encore aujourd'hui, que tout ça c'est du bluff, ça c'est résoudre des faux problèmes. Le vrai problème est que vous n'allez pas chercher ceux qui sont à l'OADA, ce sont des magistrats qui vont siéger en cas de problème entre entrepreneurs congolais, ce sont des Congolais, etc. Donc, c'est-à-dire, chacun y apporte sa morale, telle qu'elle a toujours été, chacun apporte son éducation telle qu'elle a toujours été, que ce soit en Belgique, que ce soit au Congo, il va siéger, ça sera la même chose. Il faut résoudre les fondamentaux de l'économie pour que nous puissions voir maintenant toutes ces couleurs des habits apportés. Et c'est-à-dire les régimes d'exemption par rapport à l'OADA, aux droits de l'OADA, voir les conditions, par exemple, pour l'encadrement, et pour dire qu'il faut maintenant les 3% pour les nationaux, quand l'État se engage une entreprise. Tout ça, ce sont des décors qui doivent arriver lorsque on a structuré l'économie nationale, on a structuré les conditions de base pour que chaque Congolais puisse se lancer. Je l'ai dit, et Richard l'a répété, le Congolais est malheureusement, il est entraîné dans une économie de débrouillardise. Le Congolais se bat chaque jour avec la nature pour créer des conditions de survie et donc pour entreprendre. C'est dans notre sens, dans notre dynamique. Mais les conditions de base, malheureusement, constituent pour nous des obstacles premiers. Je vous ai dit hier, et je répète, que vous ne pouvez pas vous mettre à créer une économie nationale sur base des politiques monétaires étrangères, sur base des politiques budgétaires dictées de l'étranger. Vous ne pouvez pas le faire à l'intérieur. Vous devez adapter vos politiques monétaires, vos politiques budgétaires aux conditions et aux exigences et aux réalités de notre économie. À ce moment-là, ça pourra répondre. À ce moment-là, on pourra bien juger l'entrepreneur congolais pour savoir si c'est vraiment ce débrouillard dont a parlé Jean-Michel Kanka ou si c'est vraiment effectivement un entrepreneur.
Voilà. Alors, Michel Somoué, on va repasser de l'autre côté des standards pour accueillir à nouveau les auditeurs. Il y a Joséphine qui est à Boston aux USA et puis Arsène à Kikwita. Bon, Joséphine, bonjour.
Bonjour. Bonjour, Radio Okapi.
Mon
intervention, je vais faire ça. Je vais comparer les trois temps ou bien les trois hommes. Bon, parlons de trois temps. Je vais comparer Mobutu, Mouzé, et puis je vais comparer le président qui est là maintenant, Kabila. Ok, Mobutu, il a pris le pays, il a fermé le pays. Il a fermé le pays, pourquoi? Parce qu'il savait ce que nous on avait comme potentiel, sur le plan économique d'abord.
Mm-hmm.
Parce que la politique ça n'allait pas encore, il n'avait pas encore maîtrisé. Quand il a fermé le pays comme ça, on est resté, ce qu'il a trahi c'est la corruption, parce qu'il s'est rendu compte que il a chassé les autres, les Belges et les autres, sans pour autant que le peuple congolais, le peuple des Aïrois, ils n'étaient pas formés pour tenir l'économie. Mobutu est parti, on a eu Moïse Laurent Désiré Kabila. Il est venu, il a fermé le pays, mais malheureusement avec lui, il a fermé le pays tout en les vendant. Sur le plan économique, il savait ce que nous on avait comme potentiel. Il a fermé le pays, mais il l'a vendu. Les gens qui sont venus avec lui ont commencé à travailler tout en étant enfermés au pays. Et le pays n'a jamais démarré. Mais on a vu quand même qu'il a commencé à investir dans l'homme. C'est comme les autres l'ont dit, il faut investir dans l'homme. Et on a vu quand Mouzé a commencé à investir dans l'homme, l'économie a voulu démarrer. Mouzé est mort. Bon, là, j'ai vécu Mobutu, j'ai vécu Mouzé. Kabila est là, tout en le regardant de l'extérieur. Il est venu, sur le plan économique et sur le plan politique, je vais m'excuser. Je m'excuse beaucoup si ça va déranger les gens. Il est venu, il a ouvert le Congo. Il a ouvert toutes les portes, sans pour autant maîtriser et l'économie et la politique. Et le Congo, il n'y a pas moyen que le Congo puisse démarrer. Si je vais prendre l'exemple des États-Unis ici, les États-Unis a commencé à démarrer, c'est avec la ferme. Le ferme, donc les fermiers, ils ont cultivé le maïs. Maintenant, quand ils ont cultivé, beaucoup de gens ont cultivé le maïs. Maintenant, il fallait vendre, il fallait aller amener là où il n'y avait pas de maïs. Ils se sont rendus compte qu'il faut faire les routes. Quand on a commencé à faire les routes, on a engagé les gens. Donc, on a investi dans les gens. Ce qui se passe au Congo, la politique dirige l'économie. Moi, je crois que le Congo n'a pas besoin de ça. Pour le moment, le Congo a besoin que l'économie dirige la politique. Et ça sera comment je vais m'expliquer. L'économie, quand tu descends au Congo directement, tu vas voir que tout le monde vend. Tout le monde vend. Alors tu te dis, qu'est-ce qu'il vend, ces Congolais? Qu'est-ce qu'il vend? Tu vas voir qu'ils vendent les habits. Les habits qui viennent de l'extérieur.
La Chine.
Ils vendent les savons. Mmh. Les savons qui n'est pas produit localement. Tout ce qu'ils vendent, ce sont des histoires importées. Comment l'économie va démarrer? Parce que les histoires importées, tu verras que c'est là qui importe même les histoires-là, ce sont les étrangers. Donc, un étranger amène son argent au Congo. Et puis, on n'investit pas dans l'homme. Ce qu'il faut faire, il faut investir dans l'homme. Comment ça? Dans le cas présent, il faut payer l'homme congolais, les travailleurs de l'État. Il faut commencer par là. Quand tu fais un travailleur de l'État, il va rentrer chez lui, il va donner à manger à ses enfants, il va prendre sa femme en charge, l'enfant va aller à l'école et l'enfant va étudier et savoir pourquoi nous avons des mangues, on n'a pas le jus de mangue, par exemple. Pourquoi on a les palmiers, on n'a pas l'huile de palme transformée pour faire le lait de
porc. Oui, Madame Joséphine, je crois qu'on va quand même évoluer. Vous avez caractérisé l'économie de la RDC à l'époque de Mobutu. Vous l'avez fait également pour, disons, l'économie à l'époque de Mzé, que vous avez qualifié donc de l'économie un tout petit peu fermée. Hein. Alors aujourd'hui, l'économie est ouverte. Alors pourquoi il n'y a pas de résultats aujourd'hui? Parce que nous sommes allés vers la Chine. Il y a la coopération avec la Chine, la coopération avec d'autres pays de l'Asie. Mais finalement, on a du mal, c'est vrai, on parle de la croissance, mais on a du mal un peu à créer cette classe moyenne. Et voilà qu'on est aujourd'hui à la proposition d'une loi pouvant créer, arriver à ce but-là.
Il n'y a pas le démarrage parce qu'on a ouvert l'économie au moment où l'homme congolais lui-même n'est pas formé. L'homme congolais est dans la politique. La politique ne crée pas l'économie. Qu'est-ce que la politique produit? Rien. Il fallait investir dans l'homme congolais. Comme je disais là, il y a un monsieur qui a parlé des finances. Le financement dans les banques. Vraiment, je vous dis, les banques n'existent pas au Congo. Ok, prenons quelqu'un qui est au village. Il a son champ. Il cultive le manioc. Même le peu de manioc. Il veut vraiment amener le manioc à Kinshasa. Il a besoin qu'il amène le manioc à Kinshasa. Il lui faut un camion. Il va à la banque et qu'on va lui donner l'argent pour acheter un camion, amener le manioc à Kinshasa.
Oui,
non, c'est par là. Quand il amène le manioc à Kinshasa, il rentre. Au lieu de cultiver le manioc, il va cultiver et le manioc, prochainement, il va faire le pomme de terre, prochainement, c'est comme ça.
Oui, madame, raison.
Le monsieur a dit,
oui, raison pour laquelle.
Les banques ne financent pas. Or, le Congo a l'argent. L'argent là, l'Occident un nombre de Congolais. Ils ont peur d'investir dans l'homme qui est au village parce que c'est de l'argent volé. Moi, je n'ai jamais vu un pays là où quelqu'un travaille à l'État, il a son salaire de 80 000 francs, il est en train de construire un immeuble de 1 million de dollars.
Madame Josephine.
C'est la corruption pure et simple.
Merci beaucoup, Madame Josephine.
C'est là qu'il y a l'argent de l'État. Je vais prendre un autre exemple.
Allez-y rapidement alors.
Pourquoi ne pas investir, par exemple, dans le barrage Inga? Donc, il faut que, quand vous investissez dans le barrage Inga, le Congolais, au lieu, le petit peuple congolais, au lieu qu'il vende même les cartes de téléphone, il pouvait vendre l'électricité dans d'autres villes. Un Congolais, un monsieur Congolais, il vend l'électricité parce que le barrage Inga peut donner l'électricité partout en Afrique.
On va s'arrêter là parce qu'il y a...
Ça va donner des petits et moyens entreprises.
Voilà, Madame Josephine, je crois que cette loi a apporté quand même quelques innovations, entre autres la création d'un fonds d'accompagnement. Vous êtes encore en ligne, madame?
Oui, je suis en ligne.
Oui, je disais tout à l'heure que cette loi a apporté quand même quelques innovations, notamment la création d'un fonds d'accompagnement de l'entrepreneur national. C'est vrai, ça fait quand même l'objet des discussions au niveau du Parlement. Mais aujourd'hui, pour certains observateurs, ça constitue quand même une garantie pour accéder au financement auprès des banques. Donc je crois que c'est quand même une révolution économique que vient d'apporter cette loi.
Avec le financement que le Congo a, avec l'argent que le Congo trouve dans les minerais qu'il a ouvert, il a ouvert le Congo, tout le monde vient prendre les minerais. Monsieur, il n'y a pas, aujourd'hui on ne peut pas parler de quand même. Pourquoi parler de quand même au moment où on a? Pourquoi quand même? Chaque jour c'est quand même, on a toujours petit. Le Congo est grand, c'est un grand pays, il a le potentiel, il y a l'argent au Congo. Mais c'est mal distribué. Le monsieur a parlé de budget. Il a parlé de budget.
Oui, la politique monétaire et la politique budgétaire. Oui, les deux béquilles sur lesquelles repose l'économie. Voilà. Merci beaucoup, madame. On ne saura pas vous garder pendant longtemps parce que bon, les temps nous fait défaut. Merci d'avoir apporté votre contribution dans cette émission depuis Boston aux USA. Josephine, merci et à très bientôt. Merci d'écouter Radio Capi, la fréquence de la paix. Et présentement, nous poursuivons avec Parole aux auditeurs, votre magazine de débat citoyen. Nous parlons de l'entrepreneuriat. La promotion de ce système donc à travers le pays proposé par le ministère des Finances. Nous en débattons aujourd'hui avec Michel Sommoyer. Michel, vous êtes avec nous. Bonjour une fois encore, Michel.
Bonjour, Gilles.
Voilà. Alors, Michel, nous entamons le dernier quart d'heure de notre émission. Vous venez de suivre la dame qui nous a appelé, madame Josephine, qui a appelé de Boston aux USA, qui a évoqué, en fait, ce qui a défini un peu ce qui caractérisait l'économie à l'époque de Mobutu, à l'époque de Musée, et l'économie actuelle. Voilà. Fermée, ouverte, mais finalement, la population n'en bénéficie pas.
Oui, c'est même dommage que vous ayez interrompu Madame Josephine. Je crois qu'elle a fait des analyses très pragmatiques.
Voilà, elle a parlé plus d'une minute. On lui a laissé quand même le temps. Sinon, on allait vraiment s'éterniser. Elle avait déjà dit l'essentiel, on l'avait compris.
Je comprends, J.R. Mais ce qu'elle a dit est fondamental. Mais vous voyez, elle a fini par parler de problèmes de quand elle parle d'investir dans l'homme. Elle parle du salaire qui manque au Congo. Et je vous ai toujours dit, J.R., que l'organisation d'une économie, c'est avant tout l'établissement d'une synergie entre trois marchés qui constituent ensemble ce qu'on appelle l'économie. Le marché des biens et services, j'en ai déjà parlé à travers la politique budgétaire. Le marché de marché monétaire, j'en ai parlé également en parlant de la politique de crédit. Et le marché du travail. Elle vous parle de l'homme, du salaire. Ça n'existe pas chez nous. C'est un problème. Je vous ai dit, comme elle l'a dit quelque part, lorsqu'elle dit que le problème actuel que nous avons, c'est que l'économie congolaise a été trop ouverte précipitamment. Je vous ai dit, avant qu'elle m'intervienne, que j'ai toujours condamné la politique du copyright, parce qu'elle était en train de vendre le pays. Parce qu'on ne peut pas privatiser les entreprises de l'État dans un environnement où le particulier n'est pas encore préparé efficacement à assumer la relève de l'État. en citant Prigogine, de la puissance va toujours en raison inverse de la connaissance. Attendez que la connaissance puisse croître pour que la puissance s'efface petit à petit. Je crois que c'est ce que Mme Joséphine était en train de répéter tout à l'heure. Alors, quand elle dit Mobutu avait fermé l'économie, elle fait allusion naturellement à la zaïrianisation, qui est la première démarche de Mobutu pour créer une classe moyenne congolaise. C'était un effort qu'il avait fait. Mais ça n'avait pas répondu. Madame dit c'est parce qu'il y a eu la corruption. Elle a raison en partie. Mais la vérité, c'est que les gens n'étaient pas formés suffisamment à assumer les responsabilités entrepreneuriales. Mais ce n'est pas tout. Mais encore faut-il dire que même là aussi, je l'ai écrit dans mon mémoire de DEA il y a bien 5-6 ans, je le disais même là aussi, qu'il y avait un grand problème au niveau de la politique, de la responsabilité de la Banque centrale, de la Banque du Zaïre à l'époque. J'ai même donné des citations du rapport de la Banque centrale qui prouvait que la banque travaillait pour les intérêts des travailleurs et travaillait pour l'intérêt de la nation. Et c'est ce qui a cassé la politique de nationalisation de Mobutu. C'est essentiellement une responsabilité de la Banque centrale. Lisez les rapports de la banque de 1975-1976, vous trouverez que la banque était en train de condamner la progression de l'économie congolaise qui avait atteint le taux de croissance allant jusqu'à 11% en une année. Mais on avait rectifié pour amener ça à 10%. Et pour la Banque centrale, il fallait pousser encore Mobutu à aller emprunter de l'argent, alors que Mobutu frappait à la porte, il faut monter international, pour prêter de l'argent au monde entier. Vous comprenez, nous avons un problème. Madame vous a parlé de ce que le Congolais vend, en parlant de l'importation. Mais c'est un grand problème, c'est ce que je dis. Nous sommes engagés dans un système de jeu de renard libre, dans un poulailler libre. L'excès de libéralisme dicté par le Fonds monétaire de la Banque mondiale aujourd'hui au Congo, pour faire du Congo rien qu'un enjeu de la mondialisation, au lieu d'en faire un agent de la mondialisation, c'est que nous sommes là en train de consommer étranger, de produire pour l'étranger, nous sommes là en train de nous consommons jusqu'à la monnaie étrangère. Depuis la monnaie jusqu'au cure-dent, c'est étranger. C'est un problème que nous avons, qu'il faut pouvoir résoudre. Comment on va le résoudre si on ne met pas en place un cadre général de gestion de l'économie qui reflète l'identité du Congolais, qui porte dans son sein la culture congolaise. Parce que la consommation doit être le reflet de notre culture. Mais nous ne sommes pas habitués, nous ne sommes pas cultivés depuis nos villages à manger des queues de porc, des queues de bœufs, des queues de ceci. Mais c'est devenu aujourd'hui une consommation pour les Congolais. Ce n'est pas normal ça. Il faudrait qu'on refonde le Congo pour qu'il y ait une nouvelle vision, comme a parlé mon homonyme Michel, il faut qu'il y ait une vision de l'économie congolaise. La vision doit être fondée sur la culture du peuple.
Oui, Michel, madame a comparé l'époque de Mobutu, suivant après l'époque de Musée et l'actuelle économie. Voilà, il y a quand même des différences avec l'économie fermée et l'économie ouverte.
Bien sûr qu'il y a des nettes différences hier. Elle a dit, je ne voudrais pas redire ce qu'elle a dit, mais il y a des nettes différences. Moi, j'ai parlé de la nationalisation de Mobutu, la nationalisation de l'économie congolaise. Musée est venu avec la même idée de nationaliser l'économie congolaise. Mais malheureusement, il avait déjà mal procédé depuis le départ, parce que son accession au pouvoir devait être appuyée essentiellement et nécessairement par les capitaux étrangers. Il avait déjà des pactes, des accords avec les étrangers qui devaient l'accompagner. Alors une fois au pays, prétendre restituer l'économie et le pouvoir aux Congolais, ça passait quelque part dans la tête de ceux qui l'avaient accompagné pour une trahison. Moi, je crois que c'est normal, c'est jouer un jeu de double face. Mais ce sont des erreurs de départ qui ont coûté cher, un peu que par amour, je dirais. Mais moi, je pense que fondamentalement, il s'est reconverti à de bonnes idées quand il est arrivé au pouvoir, mais c'était trop tard. Même quand madame dit que, avec lui, l'économie avait commencé à reprendre, je dis non, madame a fait une mauvaise lecture de la gestion de Musée. Je suis désolé que les gens oublient trop vite. Vous savez, Musée a trouvé, bien sûr, un taux d'inflation. En 1994, permettez-moi de ce qu'on a dessus. En 1994, c'est vrai, on avait atteint un taux d'inflation qui atteint 9756%. On l'a dit, c'est vrai. Mais il faut reconnaître que quand Ken Gwadon est arrivé au pouvoir, il a ramené ce taux de 9756 jusqu'à 300%. Et on tendait vers plus bas quand vous êtes arrivé au pouvoir. Il a pris le pouvoir en 97. Et aussitôt, on est passé du taux d'inflation positif d'abord à un taux de déflation. La déflation est aussi une catastrophe pour l'économie nationale. Et de la déflation, nous sommes remontés avec lui quand vous avez quitté le pouvoir, on était à 511% de taux d'inflation. Il ne faut pas qu'on oublie.
Aujourd'hui, Michel,
vous avez commencé avec un $100 pour les fonctionnaires. Est-ce qu'il a fini avec $100 pour les fonctionnaires?
Alors, Michel,
vous commencez à les payer. Donc, il faut dire que les difficultés économiques de ce pays l'avaient rattrapé très vite. Mais heureusement, les gens oublient facilement dans ce pays. Mais moi, j'avais déjà fait des notes à l'époque et j'en suis encore responsable. J'avais fait des notes à l'époque, y compris adressé à M. lui-même qui était d'accord avec moi.
Voilà, aujourd'hui, avec l'économie ouverte, c'est quand même une opportunité.
Non, l'économie ouverte, comme j'ai dit hier, nous sommes entrés dans la civilisation par la porte de sortie. On ne peut pas s'ouvrir de cette façon-là. Madame Josephine vous a dit que les gens avaient commencé par la ferme. Ils ont commencé bien sûr par les fermes, et quand ils ont vu qu'il y avait des problèmes de circulation de marchandises, la politique budgétaire est intervenue immédiatement. On a dit l'État doit maintenant construire des routes. On est entré dans la politique de grands travaux. C'est la politique budgétaire qui vient immédiatement à la rescousse des privés. Mais nous, on commence par la sortie. On ne peut pas commencer par l'importation et l'exportation. On exporte le surplus et on importe ce qui manque à la production intérieure. Mais on n'exporte pas l'essentiel, bon sang. Mais nous produisons le cuivre et tout le cuivre va à l'extérieur. Nous produisons de l'or, tout l'or va à l'extérieur. Nous produisons du pétrole et tout pour l'extérieur. Mais finalement, qu'est-ce que nous faisons pour l'intérieur? Rien du tout. Nous consommons totalement étranger, je vous dis, nous consommons depuis la monnaie que nous utilisons, le dollar américain, jusqu'au surdent que nous utilisons voilà. pour nous,
tout Michel, est étranger. Michel, si vous permettez, on va accorder une minute à chacun de nos auditeurs qui sont les derniers, donc Arsène Kikwit et Ismaël Massimaliba. Arsène, vous êtes parmi les tout derniers auditeurs, vous avez une minute, Arsène.
Bien que nos prédécesseurs ont commencé déjà à expliquer, ils sont allés en profondeur dans toutes les théories économiques, moi je crois à mon avis que je peux me poser cette question. Comment dans cette nation nous avons un tas d'économistes, de chercheurs de haut niveau, des gens très intelligents, mais nous ne sommes pas parvenus à sortir de ce
méandre
de crise économique. Le problème est simple. Le problème se pose au niveau de la conduite de la masse populaire. Il faut une orientation. Il faut que les Congolais puissent avoir une vraie orientation. Qu'est-ce qu'il veut, où il va et comment il peut atteindre son idéal.
Voilà, donc
la théorie, ok,
oui,
la théorie
oui.
qu'on a énoncée doit être appliquée. Pour l'appliquer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut éduquer la masse. Il faut donner une mouvance à la masse pour dire, écoutez, voilà, nous allons travailler comme ça, nous orientons comme ça et nous pouvons atteindre le but. Sinon, on risque de tourner en rond, on risque de avoir beaucoup de théories, beaucoup d'universités. Comment on peut être un bon médecin tant qu'il n'y a pas un bon infirmier?
Merci beaucoup, Arsène.
C'est ça le problème. C'est ça le problème.
Merci beaucoup, Arsène. Ismaël, vous êtes à Massimaliba dans les Balcogo. Bonjour, pardon, dans les Valdoudou. Bonjour, Ismaël.
Oui, bonjour. Je voulais parler concernant l'économie de notre pays, mais je regrette beaucoup tous nos chefs à deux positions. L'ancien Premier ministre qui était à deux positions. Il paraît qu'il avait fait l'économie. Maintenant, d'abord, il est venu. C'était l'économiste. Mais, c'est toi déjà quitté. Allô?
Oui, allez-y, vous parlez des économistes. Comme l'a dit Arsène, il y a pas mal d'économistes dans ce pays, des analystes. Oui, il n'y a pas que ceux qui sont
les économistes. Lui-même, le Premier ministre, il est un économiste. Mais il ne sait pas comment il faut maîtriser et stabiliser l'économie de notre pays.
Oui, les débats aujourd'hui tournent autour de la création de la classe moyenne qui passera, en tout cas selon le gouvernement congolais, par la création aussi, par la loi sur la promotion de l'entrepreneuriat, voilà, qui est encore à l'examen au Sénat. Donc c'est ça le débat, Ismaël. Est-ce que vous avez des préalables à proposer?
Bon, là, vraiment, je ne vois pas qu'est-ce que je veux comprendre encore.
Merci beaucoup, Ismaël. Michel Somoué, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Il faut retenir que la loi n'est pas mauvaise. Elle est même cohérente quand on la lit, la loi du ministre Yav. Il faut que moi, je comprends parfaitement Yav qui veut proposer une telle loi, eu égard à son passé. Il vient de la secte, c'est normal qu'il ne voit que l'entrepreneuriat au départ, comme la condition de le démarrage de l'économie nationale. Yav était coïncide de son du cabinet des questions économiques du chef de l'État. Et c'est comme ça qu'avec lui, le chef d'État avait déjà commencé à parler de l'entrepreneur, de la classe moyenne, de l'émergence et autres. Ce sont les conseils de Yav. Qu'il arrive au ministère des Finances, il doit marquer son passage, et il doit marquer son identité, et je le reconnais là-dedans parfaitement. Et je dis, il a raison, on ne peut pas le condamner pour ça. Mais moi, à sa place, j'irai plus loin.
je commencerai par dire pourquoi les autres lois n'ont pas marché.
Voilà, rapidement.
Dans la salle de l'offre, pourquoi ça ne marche pas?
Oui, rapidement, Michel. Voilà, Michel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour, en fait, modérer cette émission autour de la loi sur la promotion de l'entrepreneuriat en RDC proposée par le ministre Yav, ministre des Finances de la RDC. Et cette loi est encore en examen au Sénat. Merci beaucoup. Et merci à vous tous qui avez participé à ce débat. Merci également à Amélie Kindou qui a assuré la mise en onde de cette émission, aux côtés des Berry, Franklin, Luciaka et Julie Fezabongonda qui l'ont réalisé sous la coordination et la présentation de J.R. Lugembo. Et cette émission a été supervisée par Léonard Moulamba. On se retrouve demain.